Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 198. Mon nom est Paul Landreau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante. Et on a des invités, oui, on est live au FNC. On a une petite chanson thématique et on va commencer ça si peu.
Spécial enregistré live devant un public en délire à la chaufferie du FNC. À vue de nez, je crois 800 personnes, mais j'ai jamais été bon pour calculer les foules.
Ajouter des bruits en post-production, Pascal.
Nous avons la très grande chance déjà d'être invités par le festival. Alors merci beaucoup au Festival du Nouveau Cinéma de nous accueillir pour une deuxième année consécutive. Nous avons la grande chance cette année d'avoir avec nous deux cinéastes français qui, moi, m'ont énormément touché dans les dernières années, Jonathan Vinel et Caroline Podge, qui ont fait des courts-métrages remarquables, selon moi, ainsi que leur premier long-métrage, Just Go Forever, qui a joué cet été au Festival Fantasia. Et ils font l'objet d'une rétrospective par le festival. D'ailleurs, si vous voulez voir leur film, leur court-métrage, c'est le dimanche 13 octobre à 19h25. À quelle salle? C'est compliqué. Cinémathèque québécoise. Ensuite, le lendemain, toujours à la Cinémathèque, le lundi 14 octobre à 17h, projection de leur film en duo, suivi d'une discussion animée par Émilie Poirier. Moi, personnellement, je les ai découverts avec le film « Martin pleure ». Je suis également programmateur pour un festival qui s'appelle « Plein écran ». Et c'est un ami, un cinéaste qui était justement en tournée avec son film, qui m'avait dit « Je suis tombé là-dessus, c'est vraiment une pépite. Je le sais, Paul, que tu aimes ça les affaires étranges un peu des fois. Il faut absolument que tu écoutes ça, c'est vraiment génial. » Et il avait vu juste, en fait, « Martin pleure », pour ceux qui ne le savent pas. C'est un film tourné donc avec le moteur de jeu de « Grand Theft Auto V ». Ça, il a fallu que je fasse des recherches parce que pour moi, c'est juste un jeu vidéo. Et donc, certains parlent, il y a comme un style qui existe, les films de Machinima. Là. Mais ce n'est pas vraiment un film à propos de ce jeu-là, pas du tout. C'est vraiment un film qui a une sensibilité très, très appuyée, très forte, une poésie. Et donc, ensuite, on a programmé ce film-là et puis j'ai commencé à découvrir leurs films en solo, en duo. Pour moi, en fait, c'est les premiers cinéastes qui sont des vrais gamers. Et ce que je veux dire par là, c'est que...
L'êtes-vous?
On
va y venir, on va y venir.
Peut-être qu'ils vont confronter
infirmer ton affirmation.
Mais, tu sais, au contraire, mettons, d'un Steven Spielberg qui fait un Ready Player One puis qui a comme une idée vague de ce qu'est les jeux vidéo, pour moi, j'ai l'impression que c'est des cinéastes qui, comme moi, ont grandi un peu avec ces images-là.
Et la porn, sûrement.
Des jeux vidéo et la pornographie également, qui est des images qui sont récurrentes dans leur cinéma. Vraiment une utilisation du sexe qui est très décomplexée, qui s'inscrit un peu dans un mouvement en France avec notamment Bertrand Mandicot, mais aussi Alain Guiraudy, puis des cinéastes comme ça qui sont vraiment très modernes. C'est d'ailleurs pas un hasard, ils ont signé dans le cahier du cinéma un très beau texte, un manifeste qui s'appelle Flamme, que je vous invite à lire avec Bertrand Mandicot justement et Yann-Manuel Hernandez. Yann Gonzalez, pardon. Je confonds avec un autre cinéaste. Je voulais un petit extrait. Nous poursuivons un cinéma enflammé, un cinéma pour les rêveurs transpirants, les monstres qui pleurent et les enfants qui brûlent. Un cinéma qui jouit et se consume sans compter. Et nous invitons tous les cœurs enflammés à venir souffler sur les braises. Pour moi, c'est vraiment... je ne pourrais pas en fait l'exprimer mieux que ça. C'est un cinéma qui, à première vue, est peut-être difficile d'approche parce qu'il y a un style de jeu, notamment avec les acteurs, qui est tout en chuchotement, en retenue, qui n'est pas très loin de Bresson, mais pas tout à fait non plus. Il y a l'esprit de groupe, il y a la camaraderie, mais il y a aussi une violence. Évidemment, on pense peut-être à Beau Travail de Claire Denis, ce genre de truc.
Et, L'Humanité, Bruno Dumont peut-être aussi, si on veut jouer au jeu de la comparaison. Mm-hmm. Il y en aurait d'autres, mais
Un Spring Breakers, peut-être, d'Harmony Korine, avec les espèces de mantras répétés qui deviennent comme des espèces de religion, là, de cantiques, des phrases comme ça répétées. Donc, voilà. Alors, ils sont avec nous. Et c'est un duo de cinéastes. Et je me demandais justement, là, vous avez réalisé plusieurs courts-métrages ensemble, notamment un des plus beaux titres, Tant qu'il nous reste des fusées à pompe, court-métrage qui avait gagné l'Ours d'or à Berlin. Et vous avez fait plusieurs courts-métrages ensemble, vous avez fait votre long-métrage. Est-ce que vous avez l'intention de continuer ensemble? Parce que vous avez fait aussi des films en solo. Qu'est-ce que vous apporte un peu votre travail en duo versus votre travail solitaire?
Alors, bonsoir. À la base, on avait commencé du coup seul, en solo, chacun de notre côté. Et en fait, on s'est rencontrés à travers les films. Donc, en gros, ça a été avant d'être... on est un couple dans la vie aussi. Donc, avant d'être une histoire d'amour, ça a été une histoire de cinéma, en fait, où on s'est rencontrés à travers nos films, en se faisant des retours, en s'aidant sur le montage, sur le scénario, etc. Et après, voilà, on s'est mis ensemble. Et de façon très, très naturelle, on s'est dit... Viens, on commence à écrire un film ensemble. Ça a été voilà, les fusils à pompe, tant qu'il nous reste des fusils à pompe. Et je crois qu'en fait, ce qui nous reliait finalement, c'était plus un terreau d'histoire, de lieux, d'amis, d'émotions en commun, de souvenirs. Et en fait, c'est tous nos films en fait, partent de ça, que ce soit à travers le jeu vidéo, qu'à travers le porno, l'image internet, les quartiers pavillonnaires, la mort, etc. Tout part quand même d'une expérience et d'un souvenir en fait qu'on a eu en commun, voilà. Et du coup, ça s'est fait de façon naturelle, voilà. Et après, on s'est jamais privé de faire des choses séparément. En fait, c'est quelque chose qui est tout à fait possible parce que on n'a peut-être pas forcément la même. Moi, vraiment, je suis pas une vraie gameuse. Je peux pas dire que je suis une vraie gameuse. Et Jonathan l'est complètement. Du coup, Martin pleure. Tu l'as fait de façon tellement instinctive. Tu l'as fait en te disant que t'allais pas faire un film au début. Juste, tu capturais des images dans le jeu. Et après, t'as voulu faire un film. Donc ça, moi, j'aurais pas pu être là à ce moment-là, en fait, dans cette démarche spontanée, instinctive. Donc voilà, c'est à la fois. Oui, ensemble, parce qu'on est plus fort et voilà. Et des fois, si tu as envie de faire seul, tu feras seul. Voilà.
Parce que le jeu vidéo, c'est pas uniquement la réutilisation d'images. C'est également, j'ai l'impression que vous comprenez la poésie des jeux vidéo, la logique des jeux vidéo. Et par exemple, tu sais, il y a quelque chose d'absurde dans se dire que tu joues dans un jeu vidéo puis il y a un item comme ça qui flotte dans les airs. Mais bon, il y a des raisons techniques à ça, des raisons de programmation. Mais vous réutilisez le potentiel poétique d'une telle image. Ou, par exemple, dans les jeux vidéo, des cadavres qui vont disparaître au bout de quelques secondes parce que c'est plus facile à calculer pour la machine. Mais vous utilisez aussi des corps qui apparaissent, qui disparaissent, comme si vous y voyez le potentiel lyrique.
Les glitches de programmation, un peu, là, les murs invisibles, tout ça, là, toutes les limites deviennent finalement un langage avec lequel on s'exprime avec ça. Puis, ben c'est ça, donc le vrai gamer, c'est plus toi, Jonathan, de ce qu'on en comprend.
Ouais, moi j'ai vraiment grandi avec le jeu vidéo. Enfin, les jeux assez basiques, que ce soit GTA, j'ai commencé à jouer à GTA 2, et c'était tout... Cette idée des mondes ouverts, c'est-à-dire c'était des jeux où il y avait pas vraiment de, on pouvait y avoir un but précis, mais en gros, ce qui était plus important, je pense, pour les joueurs, et c'est pour ça que beaucoup de gens ont aimé jouer à ces jeux-là, c'est qu'en fait on pouvait errer. Il y avait cette idée qu'en fait c'était pas tant la mission qui était importante, mais c'était plus comment on allait utiliser le paysage, comment on allait penser les choses, comment on allait s'évader à l'intérieur de ça. Et je crois que c'est cette espèce de rêverie qui m'a toujours plu dans les films. C'est un truc d'essayer de se perdre en fait. Et c'est quelque chose qu'on avait. Parce qu'en fait, il y a un truc dans le jeu vidéo où tous les gens qui n'y jouent pas ont des a priori très précis, disent soit c'est violent, soit c'est ci, soit c'est ça. Mais en fait, le jeu vidéo, il y a un truc qu'on ne peut pas sentir, c'est que chaque personne qui va jouer va se projeter énormément à l'intérieur, va s'inventer tout un monde, va se dire, mais en fait, par exemple, quand j'ai une mission, moi, dans le jeu, on nous dit je la fais pour ça, mais en fait, en fonction de ce qu'on y met à l'intérieur, on peut la faire complètement pour autre chose. Et en fait, c'est un truc très personnel qu'on peut pas ressentir si on joue pas en fait. Et je trouve qu'il y avait un truc comme ça qui était de l'ordre de la poésie en fait pure, qu'on voit pas dans l'imagerie en tout cas, où il y a toujours ce truc de ouais c'est des gros bourrins. Maintenant ça a changé parce que les jeux vidéo sont devenus un truc où un peu plus cool entre guillemets, enfin c'est revenu aussi dans toute une culture de l'art contemporain avec toute cette imagerie un peu de 3D et tout, qui fait que maintenant presque le jeu vidéo est un truc un peu hype, alors qu'avant au début c'était vraiment un truc, moi je sais quand on y jouait au début c'était un truc où ouais, t'étais un peu un gros bolos, quoi. Fallait, si tu jouais à ça, tu savais que t'allais pas avoir de meuf pendant longtemps. Enfin, non, mais il y avait quand même toute cette imagerie qui était là, et ça a changé. Mais en fait, moi, pour revenir à tout ça, en fait, je pense que c'est aussi les jeux vidéo qui m'ont fait rentrer dans le cinéma d'une manière plus simple. C'est vrai que moi, quand je suis rentré dans le cinéma, au début, j'aimais vraiment un cinéma très formel. J'étais vraiment fan de Gus Van Sant, de Bruno Dumont, d'Harmony Korine, des gens comme ça, et j'avais très peur des grandes histoires. En fait, j'avais un truc où j'avais peur des histoires dans le cinéma. C'est quelque chose qui, je me disais, j'ai pas envie de raconter des histoires, j'ai plus envie de raconter des sensations, des errances. Et en fait, je pense que c'est les jeux vidéo qui m'ont reconnecté à l'histoire, en fait, parce qu'il y avait ce truc où en fait je me disais, tu peux avoir une histoire, elle peut être très simple, mais en gros, c'est comment tu vas investir et comment tu vas rêver à côté. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse dans les films, c'est toujours de trouver des histoires très simples, mais justement de construire toute une rêverie à côté. Et en fait, c'est pas forcément que c'est un prétexte, l'histoire, mais c'est juste que comment on l'habite par la sensation en tissant autour. Et en fait, je crois que c'est ça qu'on essaye de faire à travers tous nos films.
Justement, il y a beaucoup de narration dans vos films. Vous passez beaucoup par la narration, puis est-ce que la voix off, est-ce que c'est la voix off s'écrit avant d'écrire les images, ou est-ce que ça se fait comme en symbiose?
Ça se fait vraiment comme une... Je pense que ouais, ça se fait comme une symbiose. En fait, souvent, par exemple, dans Jessica, il y en avait plein qui étaient écrites au scénario, mais qui sont pas vraiment là dans le film fini. En fait, c'est un équilibrage qui se fait en fonction de ce qu'on sent, qu'on a là où on a envie d'aller. En fait, ce qui est très agréable avec la voix off, c'est que c'est une construction, comment dire, verticale en fait. Et du coup, il y a un truc où tu te dis à un moment, ouais, j'aimerais bien aller là, et tu y vas et tu mets la voix off, et du coup, ça te permet d'empiler des choses et de sentir, mais c'est pas, ouais, c'est vraiment de la rêverie en fait. Je sais pas, en fait c'est tellement instinctif quand on le fait aussi, que c'est pas quelque chose où on se dit, oh, on va mettre une voix off là, une voix off là, juste quand on est au montage, parce que c'est quand même des films qui sont énormément au montage. Il y a toujours un scénario qui est très précis, mais en fait le scénario change complètement au montage, parce qu'on essaye toujours de retrouver la sensation de la chose qu'on a écrite. La sensation passe par des images qu'on a tournées, et des fois il y a des images qu'on a tournées qui, comment dire, qui sont plus fortes que ce qu'on avait imaginé, et qui du coup contiennent déjà ce qu'on voulait raconter. Et du coup, je crois que la voix off permet un peu de guider le spectateur. C'est un peu comme si, ce qui est très pratique et qu'on trouve très beau avec la voix off, c'est que c'est comme si c'était un pacte entre le spectateur et le film. Et c'est un truc direct où en fait les personnages sont pas vraiment au courant. La voix off, c'est un espèce de journal intime où on dit, je pense ça à tel moment, et en fait on y a accès comme ça. Et c'est, je sais pas, enfin c'est un truc ouais, très sensitif en fait. Autant que la musique en fait, qui est très très importante dans nos films, et qui contribue à la voix off aussi, à créer des chemins et à essayer de faire des éclats et ouvrir des brèches dans les films.
Et l'utilisation de la voix off dans vos films, en fait, ça pourrait même être l'objet d'analyses vraiment poussées. Là. Je pense à quelqu'un comme Michel Chion, là, qui s'amuserait à justement... parce que vous avez utilisé beaucoup le fameux text-to-speech, la voix informatique. Et ça, justement, de prendre cette voix-là, qui est par définition sans émotion, sans parti pris, mais de lui apposer un texte très lyrique et empreint de sentiments, ça fait comme un décalage qui est absolument fascinant, en fait.
Ouais, mais ça en fait, c'est marrant, parce que le truc des text-speech, là, c'était... En fait, au début, on faisait ça juste parce qu'on n'avait pas de personne, et qu'en gros, du coup, on était avec nos... Je savais qu'il y avait ce logiciel qui existait, du coup, j'écrivais... Enfin, on écrivait les voix en même temps qu'on faisait les films, et du coup, tu te dis, attends, je vais écrire cette voix. Moi, j'ai une voix pourrie, donc si je le fais, je vais pas aimer, je vais être... Ça va me faire une distance, et du coup, on tapait les trucs, on essayait, et en fait, justement, en se rendant compte, on se trouvait que justement, cette espèce d'émotion, enfin, c'est des voix, c'est comme si on savait pas parler, en fait, c'est comme si un robot qui savait parler, et du coup, l'émotion arrive à des endroits qu'on contrôle pas, et on trouve que c'est assez magnifique, parce qu'il y a un truc où, c'est comme si t'étais limité dans l'émotion que tu pouvais donner, et du coup, le fait d'être limité crée encore plus d'émotions. Je sais pas si c'est...
Ben, c'est un principe très Bresson aussi, justement. On en parlait un peu, puis j'ai vu spécialement que tu hochais la tête lorsqu'on référençait Bresson. Il y a cette espèce de volonté de rendre inanimé, puis de finalement donner une genre de pureté au texte, puis que c'est par cette pureté-là qu'une émotion passe. Puis comme tu le dis, je pense que n'ayant aucun accent, c'est beaucoup plus libre à l'interprétation du spectateur d'une certaine façon.
Ouais.
Donc.
Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était des archétypes qu'on pouvait justement... se mettre à l'intérieur, parce que justement il n'y avait pas trop d'accent, c'était assez simple à apprendre en fait. Moi, c'est ça qui m'a marqué dans Bresson, c'est qu'il y avait un truc où, quand j'ai vu ces films, je me suis dit, c'est des choses qui pourront jamais vieillir, parce qu'en fait, il n'y a pas la marque d'une époque en fait. Dans le jeu des acteurs, il y a un truc où c'est universel, et ça reste, et en fait j'ai l'impression que ça va traverser le temps, et c'est pas comme des films où moi j'adore, comme Romer, où en fait il y a un parler qui est très beau, mais qui est lié à une époque, et qui fait qu'on a l'impression que ces gens-là aussi appartiennent maintenant. Ça fait un truc très nostalgique quand on revoit ces films, alors que Bresson, je trouve qu'il y a un truc où ça traverse le temps, comme ça, c'est une brèche dans le temps.
Puis parlant d'époque, en fait, là, on est dans une formule rétrospective au Festival du Nouveau Cinéma, parce que vous présentez un programme de courts-métrages, et certains d'entre eux datent de 2012. Puis justement, comment ils ont vieilli, ces films-là, à travers vos yeux, les films que vous avez peut-être réalisés il y a donc déjà, quoi, 6, 7, 8 ans? Comment on les revit en 2019?
Ah, on les revoit pas tous les jours quand même.
Non, quand même.
C'est vrai. Je sais pas. Je sais que concernant moi, le premier film que j'avais fait toute seule, quand je l'ai revu, enfin, il y a beaucoup de naïveté en même temps.
C'était lequel, excuse-moi, le titre?
Chien, le tout
Chien,
premier,
oui, okay, oui, c'est ça.
Et en même temps, il y a des choses que je referai plus jamais, parce que maintenant j'ai trop, en fait, presque, je suis trop abîmée. J'ai l'impression aussi un truc de pureté et de premier degré. Et en fait, où tu sais pas comment faire, du coup, tu fais les choses de façon tellement instinctive. Et parce que j'avais jamais mis les pieds sur un plateau de tournage, donc je savais pas, en fait, comment on faisait un film. Et du coup, quand je le revois, je vois aussi voilà, beaucoup d'erreurs et en même temps quelque chose de fragile et de pur. Et par exemple, j'avais des espèces de... genre d'envie comme ça, de pas avoir de dialogue, etc., dans un truc purement sensitif, donc avec des images plutôt expérimentales. Enfin, c'était quand même un parti pris, je me dis, pour un premier film, voilà, assez corsé, etc. Je sais pas si je le referais maintenant, par exemple. Et on avait revu Les Fusils à pompe aussi, il y a pas longtemps, et on s'est dit, pareil, des choix qu'on, maintenant qu'on referait pas, genre comme sur l'étalonnage, très radicaux, en fait, avec une image assez délavée, etc., et qui, en fait, parlait à ce moment-là, nous parlait, etc., parlait avec le film. Mais c'est vrai que des fois, voilà, je trouve qu'il faut vraiment faire attention de ne pas oublier ses débuts parce que c'est à ce moment-là, en fait, où tu es, pour moi en tout cas, le plus pur. Et parce que tu es encore dans un truc où tu essaies, tu tentes et tu n'attends rien, en fait. Tu es dans une espèce de... Tu n'es pas encore abîmé par un système, en fait, on va dire, plus aussi financier du cinéma, du tournage,
surtout qu'en plus,
etc.
Ce film-là, il a été réalisé à la Fémis, si je ne me trompe pas. Vous êtes rencontrés... peut-être
en
pas,
fait,
mais...
il a été réalisé à côté. On était encore étudiant à la Fémis. Ouais, voilà. Et en fait, on le faisait à côté de nos études. Voilà.
Okay.
C'est notre héritage qui a été réalisé.
Le film de fin d'études, ouais, voilà, en fait. Ah, ça, OK, d'accord. Et vous vous êtes rencontrés. Parlez-nous un peu de votre rencontre, j'imagine, parce qu'il y a ça aussi. Dans un tandem de réalisation, il y a une rencontre.
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on s'est rencontrés à la fac à travers le cinéma. C'était assez simple, en fait. C'était voilà, vraiment à travers le cinéma et l'amour des films. Voilà.
Et maintenant que vous avez goûté au long-métrage et que vous avez signé ce manifeste dans les cahiers de cinéma, j'imagine que vous avez pu cette espèce de sécurité, d'être un peu des inconnus, des underdogs. En quelque sens, vous posez peut-être, même malgré vous, comme représentatif d'un certain type de cinéma, un certain nouveau cinéma. Est-ce que vous avez l'impression de vivre cette pression ou est-ce que vous avez encore l'impression d'être tout à fait libre?
Non, il n'y a pas de pression, en fait. Parce qu'en fait, comment dire... Il y a eu de la pression, on va dire, avant de faire le premier long, parce qu'en fait, les courts-métrages avaient eu quand même un certain succès, etc. Et on a eu presque un peu trop, en fait. Du coup, en fait, normalement, quand tu fais ton premier long, tu es censé être dans une phase où on ne te connaît pas, parce que c'est ton premier vrai film, ça va être ton premier long. Et nous, les gens, en fait, avaient l'impression qu'on avait déjà fait notre premier long avant, en fait. Donc Jessica, qui est un truc quand même aussi très expérimental, où nous, on a voulu voilà, tenter des choses dans la narration, dans l'image, dans le temps, dans l'évolution des... Enfin, du coup, devenait un espèce de truc où ça devait être l'objet parfait. En fait, on nous attendait un peu comme si on était les nouveaux Kubrick. Et nous, on était là, non, mais on n'est pas les nouveaux Kubrick, en fait. On n'est pas ça, voilà. Et c'est vrai que du coup, le film a, je pense, un peu pâti du succès des courts-métrages. Et en même temps, voilà, nous, on n'a rien lâché. On n'a rien lâché sur le long, en fait. Sur le premier long, on a fait le long comme on voulait.
C'est authentique. On voit tout votre chemin avec les courts-métrages qui mènent, qui culminent à ça. Il y a beaucoup de références, même dans le long, références, je dirais juste des esthétiques, même des lieux, personnages.
Il y a beaucoup de gens qui retrouvaient des choses, des fusils à pompe, justement, qui reliaient vachement fusils à pompe, Jessica. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de compromis parce que c'était un long, parce que ça devait sortir en salle, parce que ça devait aller en festival, etc. C'était vraiment le long comme on l'avait imaginé. Voilà, on l'a fait comme on voulait. Et du coup, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de pression, en fait, pour la suite, qu'on ait plus... moi, je ressens pas ça, en tout cas. Je trouve que c'est plus difficile de faire un second long qu'un premier long, ça, c'est sûr. Donc, en fait, la pression, elle est là. Elle est à ce niveau-là, c'est d'y arriver, en fait. Et après, l'endroit où t'es attendu... je sais pas, toi, peut-être...
Non, mais après, c'est ce que tu disais bien tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que plus on grandit, plus... On peut s'abîmer facilement parce qu'on oublie ce qu'on avait envie de faire parce qu'on se rend compte qu'il faut de l'argent et du coup, il faut tout le temps, à chaque fois que tu passes une commission, il faut arriver à garder son cœur un peu pur dans ce qu'on voulait faire. Et ça, c'est le truc le plus dur, je pense. Et c'est pour ça que je pense que, pour répondre à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que ça nous fait quand on revoit les films, je pense que les vieux films qu'on faisait, les premiers, je pense qu'à ce moment-là, on ne pensait pas du tout comme ça. Et du coup, on essaye quand même des fois de se reconnecter à cette pensée en se disant, mais qu'est-ce qu'on faisait avant quand on ne pensait pas à juste qu'est-ce que c'était une carrière, de construire une carrière, toutes ces questions qui sont hyper chiantes et qui, même moi, m'effraient, mais qu'en fait, tout le monde te demande de penser comme ça, de rentrer dans ce truc, d'une logique aussi de se positionner dans le cinéma et justement de dire... Maintenant, il y a vraiment la question des entrées qui compte. On en parle énormément. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des entrées? Comment tu ramènes du public? Comment est-ce que avec des acteurs connus, pas connus, toutes ces questions, ces trucs avant quand on était plus jeune, qu'on commençait, n'existaient pas. Et du coup, c'est des fois d'essayer de se créer comme un cocon pour ne pas y penser trop. Mais après, du coup, ouais, la pression, je pense que c'est quand même... Le cinéma, pour être honnête, c'est aussi pour ça qu'on s'est toujours dit qu'on le fait à deux aussi, parce que sinon, je pense, tout seul, on le ferait pas. Enfin, en tout cas, les longs-métrages, c'est trop violent, tout seul. Après, c'est pas pour être méchant et tout, hein, mais c'est juste qu'il y en a plein qui arrivent et tout, mais je pense que c'est des titans. Ils ont un truc très... Moi, je trouve ça très dur, quoi, en tout cas. Mais... pour les choix, pour... c'est pour rester pur, quoi, pour rester dans ce truc où de pas se faire abîmer, en tout cas. Et je pense que le fait d'être deux aussi, c'est comme si on crée une espèce de carapace autour de nous, qui faisait qu'on arrivait mieux à assumer nos choix, en fait, tout simplement. Donc, ouais, c'est après, non, c'est hyper cool et tout, mais c'est quand même, ouais, beaucoup de pression, quoi. Ouais.
Mais justement, le long métrage vient avec un genre d'impératif commercial, un peu par défaut, tu sais, d'une certaine façon, dont vous parliez. Puis, parlez-en un peu peut-être de la réception de Jessica Forever, parce que nous, bon, déjà, je vous vends un peu la mèche, nous trois, on a aimé ça. Mais on ne savait pas trop sous quel angle l'aborder. Moi-même, je pense, on en a même parlé au podcast, puis on a dit littéralement, je suis pas sûr du degré de métatextualité du film, d'autoréférence du film, d'humour possible dans le film. T'sais, on avait un petit peu de difficulté à comprendre le ton. Après, ça n'a pas empêché, je pense, qu'on a embarqué dans un objet cinématographique très singulier puis vraiment intéressant. Mais donc, comment la réception, puis comment vous avez vécu peut-être la réception du film, du premier long?
Je pense que la réception, elle était aussi différente qu'à de personnes qui existent. Enfin, je veux dire, on a eu des retours dans tous les sens. Il y a des gens et on a aussi découvert ça en montrant le film. Il y a des gens, justement, qui disaient qu'ils rigolaient. Quand on l'a montré la première fois, on l'a montré à Toronto.
Et on est censé rigoler ou pas du tout?
Mais en fait, ouais, c'est possible. En fait, il n'y a pas de... Ouais, en fait, on peut rigoler, ouais. Et je pense que c'est parce qu'il y a un truc où c'est quand même, ces garçons, des fois, sont tellement, ont une vision tellement particulière aussi de comment ils sont tellement naïfs, tellement enfantins, que je pense que c'est tellement extrême que des fois, en fait, ça fait rire. Et en fait, c'est pas méchant de rire non plus, ça veut pas dire se moquer. Enfin, ça peut être aussi un rire tendre. Et puis, en fait, c'est aussi que nous, on fait des objets, on sait pas trop, même nous, je pense, on a une idée de là où on veut aller. Mais je pense qu'en fait, on fait des films. Ce qu'on adore, c'est des films où chacun peut les prendre un peu comme il veut, justement. En fait, on ne veut pas faire des films où on tient la main tout du long au spectateur. Et du coup, je pense que le spectateur a une grande place dans nos films. Et c'est pour ça qu'il y en a qui, justement, détestent faire ce travail de prendre une place, parce qu'ils ont envie, de, justement, souvent d'avoir tout un peu pré-mâché, où en fait, tu t'assois, tu regardes le film, et ça trace comme ça, et en fait, tu n'as pas eu trop de place, en fait. Tu n'as pas eu de truc à te poser des questions, tu n'as pas eu ce temps aussi de zoner un peu, en fait. Et je pense que nous, c'est un film qui autorise les spectateurs à zoner, à se perdre. Et du coup, il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui ne supportent pas et qui, justement, sous prétexte que ça laisse de la place, ils disent que ce n'est pas assez travaillé, en fait, entre guillemets, parce que, justement, il y a trop d'errance, trop de trucs comme ça, voilà. Mais après, ouais, en fait, nous, toutes ces réactions, on les a découvertes en montrant le film, quoi.
Parce que je crois que votre cinéma est très générationnel, en fait, et qu'il y a des choses tellement spécifiques qui viennent me chercher de manière incroyable, et duquel je me reconnais, je m'identifie énormément, notamment les jeux vidéo, mais dès le titre, avec une typographie qui rappelle
Diablo 2,
Mortal Kombat ou quelque chose. Mais aussi comme vos morceaux pop, en fait, de musique placés dans le film, qui viennent vraiment jouer comme des catalyseurs. Puis ces personnages qui ont de la difficulté parfois à exprimer leurs émotions, qu'on a l'impression qu'ils sont toujours en refoulement puis en répression, qui utilisent justement une espèce de chanson pour tout laisser aller puis vivre une espèce de... On dirait qu'on a tout un peu vécu ça, nous, notre génération, je ne sais pas. Et puis j'ai l'impression peut-être qu'un certain public a juste peut-être... ne comprend peut-être pas, en fait, cette façon-là de vivre les choses.
Je pense pas. Je pense, en fait, c'était assez étrange parce qu'il y a beaucoup de gens pensaient un peu comme ça, que ça allait être un film générationnel par la musique, les jeux vidéo, etc., l'esthétique un peu, l'image, etc. Et en fait, quand on l'a montré, on a été assez surpris parce qu'il y avait beaucoup de gens, génération plus 60 ans, 50, 60 ans, donc pas du tout... même 70, plutôt gamer, qui en fait vont te parler par exemple de Peter Pan, en fait, de vraiment de récits de Brooks, de récits, on va dire, plus classiques. Et parce que je crois que l'histoire de Jessica Forever est finalement assez simple, et que c'est une histoire, en fait, que tu peux déplacer dans tellement d'époques, en fait, à tellement de, voilà, d'époques, de cultures, de lieux, enfin, que du coup, les gens arrivent à s'y retrouver. Enfin, on nous a parlé de Jésus et ses apôtres, enfin, tu vois. Et en fait, quelque part, je disais, mais en fait, on nous demandait, mais est-ce qu'on pouvait, on peut reconnaître ça? J'ai envie de dire, oui, si tu as envie de toi de reconnaître ça, tu peux reconnaître ça, en fait. Enfin, c'est un film où juste c'est des gens qui essayent de croire en quelque chose d'autre, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'entends l'idée que ça laisse beaucoup de place, en fait. Je crois que c'est assez personnel, finalement. Nous, on a reçu voilà, des messages de gens qui ont parlé de trucs hyper personnels, et parce que, quelque part, ils y ont vu quelque chose de leur vie. Enfin, et après, t'as des gamins de 11 ans qui viennent te voir aussi, et qui te disent « Mais Jessica, est-ce qu'on peut dire que c'est leur maman ?» Enfin, voilà, et tu vois, c'est du coup, c'est, je sais pas si c'est vraiment générationnel. Vraiment.
Et pour ceux qui vous connaîtraient pas, qui ne connaisseraient pas, qui ne connaîtraient pas, voyons, si bol, ça va mal. Ouais, je suis déjà chaud, non? Votre cinéma, je serais curieux de, parce que tu sais, Paul, vous a fait une belle introduction, bien empoulée sur votre cinéma, mais je suis curieux de l'entendre de la bouche, de votre bouche, en fait. Comment vous auto-décririez peut-être votre cinéma, puis pour des gens qui vous connaîtraient pas, c'est comment je fais des films, puis ça ressemble à ça. Comment on le décrit? Ouais, c'est ça. Ou
non, c'est hyper dur cette question. Bah.
Ouais. Ah, le manifeste, oui.
Non, mais je pense que c'est un cinéma avant tout très romantique qui cherche à réenchanter le monde. Je pense qu'on a grandi, nous, dans un monde où, voilà, on nous a dit que si tu joues aux jeux vidéo, tu vas être assez violent. Il y a plein d'images comme ça.
C'est encore un débat d'actualité, apparemment.
Ouais, c'est ça. Et c'est qu'en fait, c'est aussi d'essayer de prendre tous ces codes avec lesquels on a grandi. On nous a dit que c'était des codes vraiment horribles aussi. Nous, on a découvert ça. C'est quand même. On nous a nourris, on a passé toute notre vie à être nourris par des choses, des produits, des goûters, des trucs comme ça, où en fait, qu'on nous disait quand on était petit que c'était le paradis, et après maintenant on nous dit en fait non, c'était de la merde, il faut pas manger ça, mais sauf que nous on est complètement habitués à ça. Du coup, je pense que c'est un espèce de réenchantement du monde. Mais voilà, donc c'est un truc un peu pour les gens qui ont envie de rêver, quoi, si je dirais comme ça.
Mais après, c'est toujours un peu bizarre de dire, voilà, de comment décrire, etc. Et je ne veux pas paraître prétentieuse, mais moi, je crois que en fait, dans mes films, j'essaye de faire ce que j'aimerais voir dans le cinéma aussi. Et je crois que ce que j'essaye de faire, c'est en fait de me surprendre, en fait, parce que je m'ennuie souvent quand même au cinéma. Et souvent, je rêve d'être surprise. Et c'est pour ça que j'adore les films de Bertrand Mandico, justement, parce que je suis tout le temps surprise et émerveillée. Et je crois que c'est ce que j'essaye de faire dans mes films, en fait, de me surprendre et du coup de me surprendre à travers le monde, à travers des images réelles, à travers des images d'Internet. Enfin, c'est de construire de nouvelles images, en tout cas, d'essayer de construire de nouvelles choses. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Jeannin Vinel et Caroline Podge.
Merci à vous.
Oui, merci beaucoup. Nous, on reprend après un bref interlude de 4 minutes. Donc, on reprend tout de suite et on y reprend avec le trio original. Merci encore à nos invités d'aujourd'hui.
Alors, nous sommes de retour.
Back.
Merci d'ailleurs beaucoup à ceux qui sont là. On sait qu'en ce moment, il y a la version restaurée de Crash qui joue au cinéma du parc.
Avec David Cronenberg sur place. Ouais. Bon, David Cronenberg ou nous.
C'est ça.
C'est ça le choix.
Mais, tu sais, ce soir, c'est le débat des chefs. Puis là, je pense qu'on parle de nous trois.
On parle du débat des chefs.
Là. OK, d'ailleurs, la différence avec l'année passée, parce que là, FNC nous invite pour une deuxième année. Ça, ouais. C'est vraiment cool, on les remercie. Grosse différence avec l'année passée, c'est évidemment que là, on est en tout début de festival. Hein? On enregistre et on est le jeudi 10 octobre.
Jour 2, puis en fait, le jour 1, c'était uniquement le film d'ouverture. Donc,
exactement. Ouais. Donc là, c'est sûr que nous, on a pu, par la magie des contacts, on a pu voir certains films en avance. Donc, on peut vous aiguiller sur certains films, c'est ça le but.
Quelques films de temps zéro, en fait, on va le dire. Là.
La plupart du temps, c'est ça, exactement.
C'est les films un peu plus indépendants. indépendants ou c'est pas les grosses sorties, donc on n'a pas vu les Jojo Rabbit de ce monde. Donc c'est ouais, on a quelques recommandations.
Ouais, puis aussi juste des films qu'on a vraiment hâte de voir, qu'on n'a pas encore eu la chance de voir. Notamment là, on écoutait la chanson Turbo Killer de Carpenter Brut.
Ah voilà, c'était ça.
Et parce qu'il y a comme un peu ça, pour ceux qui savent pas, c'est comme un vidéoclip culte, vraiment cool, sci-fi, plein d'effets spéciaux. Réalisé par Seth German avec la musique de Carpenter Brut. Et là, il y a comme la suite spirituelle de ce projet-là sous la forme d'un moyen métrage de 50 minutes qui s'appelle Blood Machines, qui va jouer gratuitement ici à l'Agora. Alors, ça, c'est.
Qui était passé par Kickstarter, en fait. Ils ont comme. Je pense que le succès du vidéoclip a mené aux fans qui ont financé un projet plus long. C'est quand même cool, là. Ouais.
Donc c'est... ça, j'ai très très hâte d'avoir ça, ça va être cool.
Mais donc je voulais juste faire une genre de mise en garde, la mise en garde étant qu'il va y avoir beaucoup de ça joue, ça on a hâte de le voir, parce qu'évidemment on n'a pas vu tous ces films-là déjà en amont, tu sais, comme on est jour 2 du festival. Parce que justement, je pense que cette année, on peut le dire d'entrée de jeu, ou du moins je le dis d'entrée de jeu, la section incontournable, tu sais, c'est vraiment incontournable, tu sais, je veux dire, on parle de Terrence Malick, Roy Anderson, Pedro Almodovar, Werner Herzog, tu sais... je pense qu'elle a rarement porté aussi bien son nom, cette section.
En même temps, je veux dire, les gens n'ont pas besoin de nous pour leur dire d'aller voir Parasite, puis d'aller voir Terrence Malick. Donc,
exactement. Donc, c'est ça. Fait qu'on le mentionne au passage, mais on ne s'attardera pas, évidemment pas sur ça parce que d'un, on ne les a pas vus. Puis de deux, ils sont déjà incontournables. Ils n'ont pas besoin qu'on en jase à outrance. Donc, c'est ça.
Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y avait un premier film, les gars, que vous vouliez recommander aux gens?
L.A. Tea Time demain!
Oh, elle est
en plus, on dit demain, mais le podcast va se remettre en ligne
demain. Vendredi.
Fait que tantôt, pour ceux qui nous écoutent sur le podcast...
Je pense que ça passe une deuxième fois vers la fin du festival, donc... Okay.
Mais ceux qui nous écoutent demain, parce que si tu nous écoutes après demain...
Mais c'est parce que si tu écoutes le podcast demain, puis que l'on dit demain, c'est un autre demain, là, ouais. Là c'est donc, comme ça devient...
Fait allez voir le nouveau cinéma.ca. Mais oui, elle est Time, en fait, de Sophie Bédard-Marcotte, son second long-métrage après le très le fun, Claire Rivière, qui nous avait toutes réjouis, en fait, ce film-là. Donc, on a très hâte de voir ça.
Genre, il y a quelqu'un qui crie.
Non, la scène de la souffleuse en Claire l'hiver. Là,
ah,
t'sais.
La scène de la souffleuse, oui. Oui, c'est un cinéma libre, hein, un cinéma, tu sais, c'est, on va dire punk, même si c'est pas les termes originaux punk, mais tu sais, c'est des films qui sont faits avec très peu, mais avec énormément de créativité. Ben, puis Claire l'hiver, c'était ça la magie du film. Là.
Ben Sophie, elle est dans l'autofiction beaucoup. Tu sais, je pense qu'elle est dans la grâce des petits moments. Justement, on nous a crié les souffleuses. C'est vraiment ça. C'est une scène qui a marqué, je pense, dans Claire l'hiver, parce que les souffleuses, on les voit hein, ad nauseam, 4 mois par année, là, c'est assez. Mais de la façon comment qu'elle le filme, mais plus largement, de la façon comment elle braque sa caméra sur le quotidien pour lui donner une certaine transcendance, hein, j'oserais quand même dire. Moi, j'aime beaucoup son cinéma, puis c'est surtout que, je veux dire, à qui on peut la comparer, Sophie? Peut-être un petit peu les essais autofictionnels de Chantal Akerman, probablement, mais j'ai l'impression que ses influences sont très plurielles, très multiples, très multimédia, beaucoup de photos, beaucoup de, évidemment, du documentaire, mais ça va un peu partout, de l'art visuel,
c'est
YouTube,
jamais lourd,
Internet.
En fait, c'est ça l'affaire aussi. C'est ça. On peut comparer à Ackerman, mais c'est un cinéma qui est peut-être plus lourd, mais elle, le cinéma de Sophie est super accessible.
Très ludique.
C'est ouais,
très
vraiment,
ludique,
vraiment.
Absolument. Donc, elle est Tea Time. Ça aussi, c'est dans la compétition nationale. Hein. Sophie, elle est québécoise. Donc, premier shout-out Québec.
Yeah.
On commence par là.
J'ai hâte.
Je veux juste en lancer, moi, sur un autre film québécois. Un court-métrage que j'avais très hâte de voir, que j'ai eu la chance de voir, Sexe de rupture d'Alexandrine Dubé. Alexandrine Dubé, qu'on la connaît comme actrice, une actrice très intelligente qui joue dans comme plein de bons petits films indépendants, tout ça.
Et qui a réalisé beaucoup de courts-métrages aussi dans les dernières années.
C'est ça, qui réalise des bons courts-métrages, qui avait fait Scopic, que j'ai adoré comme film. Et Sexe de rupture, qui est encore une fois un film, comme son nom l'indique, qui porte sur la chose sexuelle, sur le couple, sur la rupture, mais avec une forme très particulière, avec une session de split screen et également comme, je ne sais pas si vous connaissez ça, le ASMR, là, comme les vidéos YouTube de gens qui chuchotent comme ça, puis qui font des petits bruits dans le micro. Ben, ce film-là, justement, utilise un peu ces codes-là pour parler de l'inconfort, de la rupture, mais également de, tu sais, des vidéos... ASMR, ça vient un peu quasiment de jouer avec ton côté reptilien. Là, ça vient un peu te chercher de manière genre, pas intellectuelle, mais vraiment animale. Là, puis il y a quelque chose genre, dans le film qui traite de ça, que le sexe, des fois, c'est une chose animale et que c'est pas uniquement intellectuel. Un couple, l'amour, tout ça.
Mm-hmm. On salue nos copines qui sont là.
Ouais, ouais c'est ça.
Non, mais... Donc, vraiment un film le fun. Puis, tu sais, des fois, il y a un cliché un peu que les acteurs ou les actrices qui réalisent. Puis, vraiment, tu sais, absolument pas...
Mais on est dans des films formels. On est dans des films qui se jouent de la forme du cinéma. Hein. C'est vraiment pas, justement...
Juste la direction d'acteur.
Ouais, le mauvais cliché du film d'acteur, effectivement, peut-être, c'est vraiment... Non, joue avec les codes, son et musique. Ben, du moins, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu... C'est ça, son tout récent. Rappelle-moi le titre.
En fait. Sexe de rupture.
OK, ben, super. Mais sinon, dans les Québécois, il y a évidemment tous les films qu'on attend, Québécois et Canadiens. On a parlé de LAT Time, qu'on n'a pas vu, qu'on attend. Je vais quand même en nommer quelques-uns au passage. Ben, le FNC, ça va être la chance de voir Antigone, de Sophie Deraspe, déjà. Antigone, il sort en salle début novembre, mais le FNC l'a quelques semaines d'avance, justement, pour le faire découvrir aux cinéphiles montréalais. L'acrobate de Rodrigue Jean, qui, en fait, moi, je t'avoue que je ne sais pas sur quelle planète j'étais, mais il sort un peu de nulle part, dans le sens où Rodrigue Jean, je connais son cinéma auparavant, mais celui-ci, on dirait que je ne savais pas qu'il était prêt, je ne savais pas qu'il travaillait sur ce projet-ci, je ne savais pas. Bon, donc ça a été la belle surprise, du moins, parce que oui, 20th Century de Matthew Rankin, qui a été, par exemple, annoncé beaucoup d'avance aussi, de toute façon, on l'attendait comme, tu sais.
The hype is real.
Ben, the hype is real, apparemment. Et tous ces films reviennent fraîchement de TIFF où ils ont eu des critiques assez fortes. Hein. On parle de films, c'est vraiment le cinéma québécois, ben, comme un peu à chaque année à TIFF, mais je pense que cette année particulièrement, entre Antigone, 20th Century, Quespan, je pense que le Québec frappe une belle année. Puis une belle année au niveau indie, au niveau festivalier. Mais c'est aussi l'année où il y a encore un film qui fait au-dessus de 6 millions au box-office. On salue Menteur au passage. Mais mon point, c'est que je pense qu'on donne peu à Sophie Durocher à chialer cette année avec le cinéma québécois. Je pense
qu'il y a... Vous trouvez un moyen quand même.
Non, mais il y a comme de tout pour tout le monde qui réussit à trouver la niche pour tout le monde un peu. Mais je le dis, puis je trouve ça bien parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas été... Que moi, en tout cas, j'ai pas été aussi... finalement enthousiasmé par le portrait global d'une cuvée, donc la cuvée 2019 québécoise, à défaut d'avoir tout vu les films que je viens de nommer, mais je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est une bonne année. Est-ce que je me trompe?
Non, puis au niveau du court-métrage, parce que j'en visionne énormément, puis toi aussi Rémi, tu sais.
Ah ouais, mais ça, c'est super.
Que, mais tu sais, à chaque année, on dirait que je me dis... OK, c'est clair qu'on ne pourra pas battre l'année dernière.
Oui, c'est ça.
Puis là, je suis comme... C'est sûr qu'on a eu... Tu sais, je pense pas qu'on va avoir, encore une fois, deux films québécois court-métrage en nomination aux Oscars. Aux Oscars,
mais les Oscars, c'est pas le seul baromètre.
Non, c'est pas le seul baromètre, ben oui. Effectivement. Mais tu sais, je me disais, comme, on peut-tu vraiment taper ça? Puis je pense que oui. Je pense qu'il y a vraiment des bons films, des films qui font le tour des festivals, des films qui remportent des prix, des films importants, notamment au FNC, ça, il y a des très bons films.
Oui.
Notamment Recru, Rebelle en anglais, de Pierre-Philippe Chevigny, qui nous avait donné Vétéran, notamment.
Oui, oui, oui.
Film vraiment intense, là, comme... j'ai pas le goût de trop en dire, parce que moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Et puis, je trouve que le synopsis gâche un peu le film, donc je vous conseille d'aller le voir. Si vous allez voir des programmes de court-métrage, en fait, c'est ça qui est le fun, parce que souvent, peut-être que tu vas voir le programme pour un film que c'est ton ami, puis les autres, c'est des découvertes.
Ouais.
Eh bien, je vous dirais, ne lisez rien sur Rebelle. Faites-moi confiance, allez voir ça. Puis c'est vraiment, vraiment fort comme film. Je suis sûr que ça va comme avoir un beau parcours en salle. Puis c'est à Juste 4 qui distribue, ils sont très bons pour accompagner leur film aussi. Donc ça, c'est un gros coup fort au niveau court-métrage.
On a accroché 20th Century, là, mais moi, ouais. Je dirais que ma soirée que j'attends le plus, c'est dimanche le 13. Parce qu'il y a 20th Century, puis juste après, il y a Jojo Rabbit. Fait que je pense que c'est comme un programme double que tu peux faire qui est high class. Là. Ouais. c'est juste d'aller en admiration devant 20th Century, puis finir la soirée bien relax devant Jojo Rabbit et l'humour de Taika Waititi. Moi, je suis fan de pas mal tous ces films qu'il a fait auparavant.
Rappelle-nous un peu son parcours à lui.
Dans ses gros films, il y a What We Do in the Shadow,
ouais.
On for the Wilder People, puis il a fait le Thor Ragnarok. Et,
ben, c'est ça.
Dans la lignée Marvel, c'est peut-être un de ceux qui a plus une signature. Là, avec sans que Guardians of the Galaxy, c'est peut-être dans les films de Marvel qui sortent un peu de la formule classique. Là, fait que, Ragnarok a quand même sa touche unique, l'humour de Taika Waititi. Moi, son nouveau film, je l'attends avec impatience. Puis ça a l'air d'être de la grosse comédie un peu disons, on va brasser un peu. C'est un petit garçon qui est dans la jeunesse hitlérienne, qui son ami imaginaire, c'est Hitler, mais une version de Hitler qui sourit puis qui est tout content. Donc, je pense qu'on s'enligne pour une belle projection.
Ben, puis c'était le prix du public à TIFF, puis c'est pour un film qui, tu sais, je veux dire, rendu là, des Green Book, on les attend un peu, prix du public. On dirait que depuis Slumdog Millionaire, il y a comme un peu l'espèce de canevas de c'est quoi un peu le genre de film qui gagne à TIFF peut-être. Puis cette année, on dirait que ça a comme complètement défié les pronostics avec Jojo Rabbit. T'sais, j'imagine donc un film relativement rassembleur si ça gagne.
En dessous d'un côté, puis Joker qui gagne le Lion d'or à Venise.
Mais c'est ça.
C'est une année weird. Là,
c'est vraiment une année étrange. Ouais. Comme, ouais, c'est ça. La course un peu... On parle tout le temps des Oscars fucking trop longtemps, fait que je veux pas comme déjà commencer, on est début octobre, my god.
Oui, mais déjà de ce film-là aux Oscars.
Mais c'est ça. C'est des films qu'on attendrait comme pas, du moins, ne serait-ce, avec les bandes-annonces ou qu'on a pu en voir. Mais ouais, Jojo Rabbit, c'est effectivement un des gros coups du FNC cette année-là. Puis là, je veux dire, ils viennent d'annoncer Parasite comme nouveau film de la programmation. Ça, c'est comme le wet dream du cinéphile, là, je pense. Donc, non, on est quand même bien nanti dans la programmation cette année. Là.
Moi, personnellement, le film que j'attends le plus, que j'ai pas encore vu, et je sais que c'est le film préféré d'un programmateur ici au festival, ça s'appelle Monos, film colombien en compétition internationale. Et j'ai eu la chance de voir quelques images lors de la conférence de presse.
Monos, 5 à 7, comme en fait. M comme maman? Monos?
M-O-N-O-S.
Oui, c'est ça. Okay, c'est ça que j'avais.
Et ce film-là, déjà, visuellement, c'est hallucinant là, quand on regarde la bande-annonce. Et il y a le cinéaste Denis Côté qui était sur un jury cette année. Leur jury a décerné le meilleur film à ce film-là. Mm. Et c'est censé être vraiment comme un incontournable. Donc, dans la compétition internationale, ça, c'est comme le film que j'attends. Là. Mm.
Sinon, mettons qu'on survole un peu. Ben, tant qu'être dans la compétition internationale, moi, j'en ai nommé... écarté un que je voulais mettre sur le radar, s'il n'y est pas déjà, c'est Echo de Runar Runarsson, film islandais. Runar Runarsson a gagné la Louve d'or hein, au FNC avec son film Volcano. Donc, déjà, c'est pas son premier FNC. Son dernier FNC, il est reparti les mains pleines. Mais oui, c'est ça, c'est juste un cinéaste que j'aime beaucoup. Là. Je veux pas m'épiloguer là-dessus, mais je voulais juste peut-être le mettre sur votre radar s'il n'était pas déjà là. Echo de Runar Runarsson.
Et puis, petit shout-out aussi à Le Dain hein, de Quentin Dupieux, notre invité de l'an dernier.
Ami du podcast. Quentin Dupieux, on peut dire ça?
Ben oui, qu'on avait interviewé l'an dernier, puis qu'il nous parlait déjà un peu de son film. Puis ouais, lui, absolument. En ce moment, je ne sais pas si vous le suivez sur Instagram, mais il est en tournage. Là, il fait Mandibule, son nouveau film. Ça va être prêt sûrement pour le prochain FNC.
Il fait tellement de films, il est tellement productif.
Puis de façon décomplexée aussi, comme il y a tellement de gens que tu as l'impression qu'ils se crucifient à faire un film, puis tu as Quentin Dupieux.
Tu fous un peu de la durée aussi. C'est souvent des 75 minutes, ces films. Ouais. Puis tout est dit, tu n'as pas besoin de plus de running time. Il sait exactement ce qu'il a besoin, puis il va avec ça. Là. Ouais. Parlant d'un qui prend au contraire beaucoup de temps, c'est Roy Anderson qui est là cette année avec About Endlessness. Roy Anderson qui fait un film genre aux 5 ans. C'est tellement de travail. Ces films, c'est des portraits, des tableaux de 3-4 minutes chaque plan.
C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai juste vu le still dans le catalogue du FNC. Puis tu reconnais Roy Anderson en une image.
Ben oui, vraiment.
Mais comme peu... Non, mais ça a l'air facile à dire, mais peu de cinéastes sont aussi iconoclastes, sont aussi faciles à... Vraiment, là, tu t'attrapes une image de n'importe quel film depuis « Songs from the Second Floor » jusqu'à...
C'est pub aussi, il a fait beaucoup de publicité, puis c'est toujours avec son esthétique.
Non, c'est ça, c'est vraiment hallucinant. Bon,
il tourne en studio en plus, c'est des décors qui sont faits, même les extérieurs sont en studio, c'est vraiment impressionnant, puis c'est toujours une expérience, puis de le voir en salle, sur grand écran, avec le son, l'ambiance sonore, moi, je l'attends avec impatience.
Mais ça, c'est un incontournable, Rémi, on a dit qu'on parlait pas des incontournables.
Ah, excusez, ben là...
Parce que les incontournables sont incontournables, par définition. Mais mettons, les incontournables dans les nouveaux alchimistes, j'en ai trois. Le nouveau Lav Diaz de Halt, le titre international anglais. Seulement 282 minutes, donc c'est un Lav Diaz relativement contenu. Seulement.
282.
Lav Diaz, ceux qui ne connaîtraient pas, réalisateur des Philippines, il n'est pas à son premier barbecue de film de plus de 282 minutes, déjà. Souvent du cinéma... De le réduire à du cinéma austère d'auteur, ce serait réducteur, donc. Mais quand même, on est plus proche d'un... C'est plus proche d'un héritier de Bellator que de n'importe quoi d'autre, je crois, peut-être. Quoique, dans ses thèmes, c'est profondément philippin. Hein, nous, on avait vu Season of the Devil. Et on avait vu lequel qu'on avait vu, la Norte. Et c'est des films aussi qui sont ancrés dans l'histoire des Philippines, l'histoire des différents régimes qui ont réprimé ô combien de générations de Philippinois. Donc, La Visage est vraiment ancrée dans sa culture, mais fait vraiment du cinéma pointu, oui, mais comme il y en a à se mettre sous la dent avec un La Visage.
Mais les festivals aussi, c'est vraiment à ça que ça sert. Ça veut dire que
absolument.
Il faut faire confiance à la programmation puis pas aller voir uniquement les films dont on connaît les cinéastes. T'sais. Et moi, La Visage, ça a été un peu par hasard à Toronto, je pense en 2012 pour Century of Birthing.
Ah oui, oui.
Film de 6 heures noir et blanc, tu sais, que j'avais aucune idée c'était qui, mais j'étais comme allons-y, tu sais. Puis ça a été vraiment une expérience marquante. Puis depuis ce temps-là, je suis, bon, plus ou moins son cinéma parce que lui aussi est très productif et tous ses films ne sont pas facilement accessibles à Montréal. Mais c'est ça, en fait, si j'avais juste un seul conseil, c'est de se dire, tu sais, vous parlez de Jojo Rabbit, tout ça, puis oui, effectivement, tu sais, j'ai hâte de voir ce film-là, mais ils vont quand même prendre l'affiche, tu sais.
D'aller
des fois un peu au hasard, puis d'aller voir des...
Ouais, mais l'ambiance d'un festival, c'est ça l'affaire.
Non, je sais, mais tu sais, ton Lave Diaz, là, il prendra... Il sera pas, genre, 2 mois à l'affiche, tu sais.
Sur 4h40 de cinéma,
Fait que... Pour moi, c'est beaucoup ça, en fait. C'est pour ça que c'est dur de faire un podcast en début de festival. Quand on, j'ai vu peut-être 10% des films, tu sais, à peine. Puis, tu sais, c'est que finalement, c'est les découvertes, c'est ça qui est le fun. Donc, c'est dur de saisir un festival. Puis, finalement, même si je suis ici à tous les jours, à la fin du festival, je vais avoir vu quoi? 20% du festival.
Ouais.
Donc, tu sais, on peut jamais vraiment... Tu sais, les gens qui sont comme, ah, c'est un bon Cannes, c'est un bon Venise, c'est un bon TIFF, tu sais, c'est un peu de la bullshit parce que, dans le fond... T'sais, si t'as vu même pas la moitié des films, puis les perles, souvent, c'est les films pas connus.
Ben,
parce que c'est pour ça qu'ils les prennent, parce qu'ils sont bons. Alors que les films connus d'auteurs, connus, t'sais, comme...
Il y a peut-être le phénomène du passe-droit, là, ben, c'est sûr.
Puis, t'sais, justement, mettons, le film d'ouverture d'Atom et Goyan, t'sais, c'est pas un grand film, mais c'est Atom et Goyan. C'est un film canadien, puis ça paraît bien, puis t'sais, on fait un film d'ouverture là-dessus, tout ça. Mais si c'était un autre nom, si c'était un jeune cinéaste indien t'sais, qui avait fait ce film-là... Le film n'aurait probablement pas été pris. Tu sais. Puis c'est sûr que ça va un peu à l'encontre de notre premier réflexe, mais d'aller vraiment au hasard dans des séances, des films qu'on ne sait pas c'est quoi. Moi, je pense que le meilleur... Puis effectivement, on va être déçus parfois, mais les découvertes qu'on fait sont d'autant plus précieuses, selon moi.
Absolument. Bien, on en a quand même vu des films.
Hein? Ouais, on n'a pas encore parlé de ce qu'on a vu.
On est jour 2 du festival, mais là, je pense qu'on pourrait
commencer... On a eu comme une semaine, on avait quelques films en liste.
On pourrait attaquer ceux qu'on a eu la chance de voir. Encore une fois, donc majoritairement dans le temps zéro. Juste pour dire, on n'a quand même pas pu voir les, entre guillemets, gros films de temps zéro, mais encore une fois, ceux-ci parlent d'eux-mêmes. Là, je parle, tu sais, mettons, Bakuro de Kleber Mendoza Filho, par exemple, et Giuliano Dornelles. Désolé pour ça. Donc, celui-là, par exemple, c'est un des gros films qu'on n'a pas pu voir. On vient de faire un petit shout-out à notre ami Quentin. Le Dain, on l'a pas vu. Jojo Rabbit, bon. Il y a le film aussi, le documentaire sur les origines d'Alien. Puis d'ailleurs, le festival fait une rétrospective d'Alien, donc une nuit blanche.
Nuit blanche à l'impérial avec genre des activités entre chaque film.
Quatre films d'Alien.
Je sais que certains gens vont dire que c'est facile de faire ça, mais moi, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis j'étais là à un moment donné quand ils ont fait... c'était pas dans le cadre du festival, mais à l'impérial, il y avait Nuit Blanche pour Scream 4 qui venait de sortir. Mmh. Puis il passait back-à-back, puis il y avait des gens qui vendaient genre des Red Bull, tout ça. Puis c'est vraiment cool comme expérience.
Ouais, puis j'ai fait une fois le marathon Alien, puis ce qui est le fun, c'est que chaque film a une signature différente.
Ouais.
Donc c'est jamais... C'est pas quatre fois la même affaire. Puis il y a quand même de la variété, mais ouais, c'est quand même... C'est téméraire, faut vouloir. Là, c'est quand
j'ai
même
tendance à oublier que Jean-Pierre Jeunet a réalisé
ouais,
Alien.
Ouais, Jean-Pierre Jeunet, c'est le quatrième.
On dirait qu'il faut que je me le rappelle.
Avec Dominique Pinon en chaise roulante.
Faut comme que je me le rappelle, on dirait souvent. Puis quoi de mieux que comme après 3 autres Aliens, ou David Fincher aussi, qui est en totale perte de contrôle de tous ses moyens là, pour Alien 3, apparemment.
Ben,
la légende veut que...
Tu vois, moi, ça fait longtemps que je l'ai vu, Alien 3, puis j'ai l'impression que c'est celui... qui potentiellement changerait... Tu sais, comme, j'ai l'impression que les autres, je m'en rappelle bien,
ouais.
Mais que lui, je m'en rappelle pas très bien.
Ouais.
J'ai l'impression que le revisiter, ça serait le fun.
Les images fortes me sont restées, mais c'est effectivement dans sa trame, puis dans les... Ouais, les comment le film est ficelé, là.
C'est un peu drap. Puis ouais. Jeunet, il a rendu ça bien coloré, mais ouais, c'est... les deux sont très débattus, disons, ouais. par les fans.
Mais ça aurait été cool que la franchise continue comme ça, plutôt que Ridley Scott qui revienne.
Oh my God, on n'en parle pas, là.
Quelques derniers petits shout-outs avant les films qu'on a vus. Moi, je veux quand même parler de Pompoko d'Isao Takahata, que j'ai vu récemment. C'est un super film environnementaliste avec des ratons laveurs, polymorphes. C'est de Studio Ghibli. Takahata, bon, c'est sûr que c'est toujours le même problème ou malédiction avec le Studio Ghibli, c'est que c'est le studio de... Ben, tu sais, c'est Miyazaki. Je veux dire, c'est, on est tous en train de faire des courbettes devant le cinéma de Miyazaki, et à raison. Je veux dire, Isao Takahata, c'est quand même le tombeau de Luciole. C'est quand même le conte de la princesse Kaguya qui est... Là, on est en rétrospective des années 2010. Le meilleur film d'animation des années 2010, à mon très humble avis. À mon très humble avis, c'est So World of Tomorrow de Donnersfeld. On est dans un autre registre. Mais non, Takahata, pour moi, c'est quand même vraiment un des grands artistes du studio Ghibli. Il n'y a rien à prouver. Pompoko, c'est une curiosité. Je veux dire, il y a comme des blagues de testicules de à travers ça. Puis en même temps, il y a un message environnementaliste, mais tellement joueur. Puis ça va partout, ce film-là. Puis c'est ouais, juste voyez-le, vous allez avoir vraiment beaucoup de plaisir. Ça a énormément de saveur. Dans Temps Zéro, il y a une rétrospective de King Hu, réalisateur chinois de films de Wuxia. Il a fait A Touch of Yen, j'allais dire A Touch of Sin, j'allais le mélanger avec Jia Zhangke, notamment, mais je veux dire, c'est un autre grand cinéaste. Rétrospective André Forcier, quand même, la chance de voir ou de revoir L'eau chaude, l'eau frette, une nouvelle restauration, il y a plusieurs nouvelles restaurations, bon.
Et son dernier film en première mondiale aussi, non?
Absolument. Ouais. Fait que, ça, c'est les affaires à venir et puis à voir, mais qu'est-ce que nous, on a vu?
Qu'est-ce qu'on a vu, toi, Paul?
On a vu un film, tu sais, les films What the Fuck Japan, là, qui sont souvent des films, tu sais, comme de Fantasia ou des trucs comme ça, mais tu sais, cette ambiance-là, un peu, là, de films que tu te... Tu sais, qu'on dirait que juste le Japon est capable de sortir, là.
Ben déjà, Temps Zéro est un peu le comment dire, l'enfant, le mauvais siamois de Fantasia, un peu.
C'est ben oui,
peu
la
c'est, dire, c'est la plus, siamois détaché à la naissance.
Ouais, ouais. Mais ouais, c'est ça. Diner, en fait, qui est un film d'une jeune cinéaste, Mika Ninagawa, qui n'a rien à envier à Sion Sono, en fait. Hein, c'est la même école.
C'est vraiment ouais, esthétiquement, on
sent la compare à Sono, on la compare à Takashi Miike. C'est vraiment cet
coloré,
héritage.
C'est tourné. Tu sens qu'il y a des affaires qui sont tournées vite, mais ça fait partie des shots de GoPro à travers. On se fout un peu de la qualité d'image. Tant que c'est bité, puis ça... C'est original, ouais. Que ça flash.
Tu sais, c'est le genre de synopsis que je pourrais comme aller vraiment longtemps dans le synopsis parce qu'il y a tellement d'affaires qui se passent que ça n'a pas de bon sens. Là. Mais en gros, c'est une fille séquestrée qui doit devenir serveuse pour un restaurant, mais pas n'importe lequel, un diner, donc.
Pas n'importe lequel,
un diner pour assassins. Puis là, moi, ça me faisait vraiment beaucoup penser au John Wick, tu sais.
Ouais, moi aussi, j'ai
pensé que,
à ça.
Parce que, tu sais, John Wick, t'as toute l'espèce de...
Association des assassins.
Ouais, avec les hôtels où on n'a pas le droit de se tuer, puis qu'on paye avec des espèces de coins quasiment de jeux vidéo, là, tu sais. Des rupies de Zelda ou je sais pas quoi, là.
Ouais.
Puis là, c'est ça, là, c'est comme travailler pour un restaurant dans lequel c'est que les assassins qui sont là, qui connaissent l'existence du restaurant, en fait. Il y a comme des portes blindées et tout ça pour rentrer. Et il y a comme une trêve un peu officieuse sur place. On ne peut pas se tuer entre assassins. T'sais. Et c'est ça. Puis au début, évidemment, elle essaie de s'enfuir, mais là...
Ben, c'est un peu Stockholm Syndrome. Là.
Ouais,
c'est un peu ça, le synopsis du film. Là. Elle se fait entourlouper là, par le genre de cuistot assassin lui aussi, évidemment, par une gang de mafieux véreux. Puis finalement, elle s'y plaît comme. Mais évidemment, on révélera pas plus que ça. Puis évidemment, c'est plus comme... Le film est très à sketch parce que ça devient un peu vaudeville. T'sais. Je veux dire, le diner, c'est à peu près... Il y a d'autres scènes, il y a d'autres stages, mais c'est vraiment... Le film se passe essentiellement dans ce diner-là.
Il y a un mélange de culture qui est assez particulier aussi parce qu'elle tripe sur la culture mexicaine. Il y a de la chanson française au travers.
Ouais, oui.
Il y a comme une espèce de portrait mondial regroupé dans ce petit diner-là.
Pense, c'est très représentatif du côté cosmopolite de Tokyo.
Absolument. Et la gastronomie. C'est ça qui lui donne la saveur assez unique. Si on a parlé de diner, ben c'est quoi diner? C'est effectivement, je veux dire, il y a plein de shots où c'est de la food porn, là, beaucoup aussi. Là.
Le fameux soufflé. Hein.
Le fameux soufflé dans le film, si vous le voyez. Bon, bref. Fait que oui, ça rentre dans la catégorie qu'on appelle affectueusement les What the Fuck Japan. C'est un What the Fuck Japan quand même relativement contenu selon les standards des cinéastes qu'on a quand même mentionnés. Il y a une touche.
Un huis clos, c'est quasiment.
C'est un huis clos. Ouais, ouais. C'est un huis clos. C'est une cinéaste, une femme, une des rares femmes japonaises à se frotter à ce genre de cinéma-là. Très.
Ben, c'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'il arrive
jusqu'ici. Au Japon, ne serait-ce. Au Japon, ne serait-ce.
Ben, c'est parce que. Tu sais, il y a quand même. Le Japon, c'est quand même une industrie qui sort plus de 500 films par année.
Oui, oui, oui.
Il y en a
oui.
quand même très peu qui se rendent jusqu'ici.
Il arrive de là, il sait, là.
Non, mais ça veut dire qu'on a à peine 1% de la production qui se
fait. Non, c'est sûr, on n'a pas le portrait global à ça, je sais, absolument. Ouais. Mais ouais, Diner, moi, je suis peut-être un peu moins enthousiaste que vous, on s'en est parlé un peu hors d'onde. Mais si, je pense qu'il va plaire plus à ceux qui ont vu moins de films japonais crinqués à 11 que ceux qui en ont peut-être vu plus. Pas que je me mette genre, ouais, moi, je n'ai déjà vu plein, puis c'est pour ça que j'ai pas aimé ça, c'est pas ça que je veux dire, mais
je pense que c'est un style de cinéma qui joue sur la démesure, puis sur un peu comme. Tu essaies tout le temps de surenchérir.
Exact.
Et
on le compare vite. On le compare vite à des films qui sont peut-être allés encore plus loin.
Ça.
Bon.
Fait que ça, y a quasiment pas d'issue à ce genre de cinéma-là, finalement.
Absolument,
parce que,
absolument.
Tu vas où là, après ça? Ben, c'est un peu le même problème que Joker par rapport à la violence. C'est comme...
Aha.
Mais bon, ça, c'est un autre débat. Il y a des très bons documentaires, sinon, à temps
zéro. Oui, les documentaires. Moi, j'ai vraiment trippé sur le IAI. Qui est un documentaire sur l'intelligence
artificielle ouais.
mais qui est exploité avec plusieurs portraits sans jamais avoir une narration ou une ligne directive, quelqu'un qui te prend par la main pour t'expliquer. À la place, tu vis des moments avec... Il y a une grand-mère qui est accompagnée par un robot ménager, dans le fond, qui va devenir un peu comme son animal de compagnie. Tu as un gars qui a une genre de sex doll, là, une poupée...
Ça, c'est la trame la plus intéressante.
Ouais, c'est vraiment...
Ça, c'est de loin. C'est ça le problème avec certains films, des fois, qui sont en parallélisme. Donc là, oui, c'est ça, il y a différents tableaux un peu, puis on dresse... On dit AI, mais en réalité, c'est très robot. Là. C'est le AI, mais intégré dans des androïdes, dans des corps. C'est ça le nouveau défi qui soulève tous les questionnements éthiques dont on connaît les soubresauts. Bon, il y a une trame plus forte que moi, à mon avis, il y a une trame définitivement plus intéressante que les autres. Puis c'est ce dude-là qui achète le robot Harmony, là, le robot sexuel. Et puis là, c'est de savoir à quel point... Il se demande s'il peut outrepasser les limites. C'est un peu awkward. Il trouve ça le fun, mais il ne sait pas à quel point il trouve ça le fun.
Est-ce que je vais en date avec le robot?
Est-ce que je peux la toucher? Est-ce que je peux pas? Il y a tous ces questionnements-là. Bien, il y a souvent une pudeur du fait qu'il est filmé. Hein? C'est ça le propre d'un documentaire. Je veux dire, tu n'es jamais 100%...
Mais c'est ça aussi, puis c'est à quel point c'est mis en scène aussi.
À quel point c'est mis en scène,
documentaire,
bon.
Parce que les scènes sont vraiment belles, sont bien filmées.
Ouais.
Puis même au début, je savais pas que c'était un documentaire, j'avais pas lu. J'ai juste parti le film, puis je me suis demandé si on rentrait dans une genre de fiction qui était, disons, qui était très réaliste, terre à terre, mais finalement, c'est un documentaire.
Oui,
mais...
puis une autre réalisatrice aussi. Fait que, c'est toujours intéressant, je pense. Surtout, c'est doublement intéressant quand ça traite un peu de... Ben de sexualité aussi. Puis là, c'est la réalisatrice s'appelle Isa Willinger. C'est le film est majoritairement tourné au Japon, mais c'est une Allemande, c'est une production allemande. C'est pas un film qui a nécessairement des grandes envolées cinématographiques, mais je pense que le sujet est assez intéressant pour que le film se soutienne définitivement. Moi, il y a un autre doc que je mets un peu dans la catégorie des documentaires qui sont plus intéressants peut-être par leur sujet que par leur forme. Puis c'est le documentaire sur Vampiro.
Ouais.
On peut peut-être en parler. La lutte, un film de lutte.
Vampiro qui sera ici au festival demain, en fait, vendredi.
J'ai comme hypé, je le connaissais pas du tout. Puis après avoir vu le film, là, j'ai vraiment... Ça me hype. Là. Ouais, en fait, c'est un lutteur canadien.
Canadien de Thunder succès, Bay, Ontario.
Ouais. Qui a eu un succès au Mexique avec les luchadors.
Attends, tu penses quand même une perle intéressante. Là. Il s'en va à Montréal à un moment donné quand il est ado. Parce qu'à la base, il fait du hockey. Puis c'est un peu ça, son train de vie. Il est comme qu'il va être repêché par une grande équipe, tout ça. Finalement, ça marche pas. Il se ramasse à Montréal. Il va être comme un peu pogné dans des trucs louches. Il va devenir genre, il va travailler pour la mafia. C'est avec un go, là, il va comme récupérer de l'argent, tout ça. Puis à un moment donné, il se dit comme. Puis lui, il est très charismatique. Là. C'est lui qui vraiment qui porte le film sur les épaules.
Ouais.
Il est très le fun. Là. Et justement, il est comme. Il faut que je sorte de là parce que je vais mourir, c'est sûr. Il voit bien ce que ça fait. Il voit. Qu'est-ce qui se passe avec les guerres de gang?
Pousser son corps à un niveau extrême, commotion cérébrale sur commotion cérébrale, fracture sur fracture.
Mais ça, c'est avant même qu'il rentre dans la lutte.
Absolument.
Puis là, il s'en va au Mexique de manière tout à fait légale. C'est sûrement plus facile à l'époque. Là. Puis il va juste comme en dehors des arénas, puis il est comme, OK, je veux rentrer dans les matchs de lutte, je veux m'entraîner avec vous, je veux travailler pour vous. Puis tu vois qu'il est super aussi rempli d'énergie puis de vitalité. Donc, genre de gars qui te convainc d'y donner une job, là, finalement. Là.
Mais tu sais, on parle de festival pour les expériences. Moi, donc oui, j'ai bien aimé le film. Je pense qu'on est les trois à avoir bien aimé. Oui, encore vraiment, une fois, peut-être vraiment, plus ouais. par son sujet et tout. Mais my God, de le voir au festival, on dirait que j'ai quasiment envie d'y retourner pour voir Vampiro, tu sais. C'est-à-dire, le gars, c'est un lutteur, man. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre le feu dans la place, c'est bien un lutteur.
Puis maintenant,
ça va être un rock show, là, cette projection-là.
C'est un gars qui réalise les shows de lutte
maintenant. Absolument, c'est ça.
Puis ça, c'est pas un spoiler, c'est dans le début du documentaire, mais... c'est ça, il réalise, puis c'est quelqu'un qui est très énergique, disons, dans les salles de montage.
Très énergique.
Très investi émotionnellement quand ça crash. Donc, cette énergie-là, je pense qu'elle va être contagieuse dans la salle.
Ah, ça va être malade. Fait que Nail in the Coffin, The Fall and Rise of Vampiro de Michael Pabst.
En présence de Vampiro ce vendredi 11 octobre.
En présence de Vampiro, ça va brasser. Oh, ça va brasser en crisse. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu qu'on a aimé? Moi, je vais vous dire... OK, parce qu'il y a des films qui défient le « j'aime, j'aime pas hein? ». Puis de plus en plus, je pense qu'on essaye de nuancer notre discours. Celui-là, le définitivement défié, c'est le film de loin qui m'a le plus confronté des neuf que j'ai eu la chance de prévoir avant le festival. C'est un film polonais de Jagoda Selk. Désolé, j'ai massacré son nom. Le film s'appelle « Monument ». Monument. Oui. Moi, j'ai été attiré par les images, l'imagerie, définitivement, tu sais, très colorée, très plastique, très... je fais la trame un peu, le synopsis, là, rapide. C'est des jeunes qui viennent faire un stage dans un hôtel reclus, un peu mystérieux, bon... Stage d'hôtellerie, c'est ce
mais
que...
Mais quasiment comme un stage militaire, quasiment.
Oui, exactement. Je veux dire, ça, dès la première scène, la manager de cet hôtel-là ressemble plus au drill surgeon de Full Metal Jacket que d'autres choses. Là. Puis les personnages sont déshumanisés d'entrée de jeu. Je veux dire, tous les gars, c'est Pavel, c'est ça leur name tag. Toutes les filles, c'est Anna, c'est ça leur name tag. Ce qui fait que c'est un film dur d'approche, parce qu'on se demande, c'est qui le protagoniste? Il y en a peu, il y en a pas. C'est un groupe. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant par le film, c'est que le film a été instigé par une délégation de finissants d'une école d'acting en Pologne. Donc, c'est un peu comme leur... On parlait de film d'acteur tantôt, mais ça, c'est comme l'ultime film d'acteur. C'est comme si la classe du conservatoire d'art dramatique engageait un cinéaste, une cinéaste dans ce cas-ci, crissement compétente, pour les faire tous... briller relativement ouais, également.
Chacun leur highlight dans
exactement.
Le film.
Exactement. Puis... Ça en fait l'ultime film choral. Mais effectivement, c'est un film très esthétisé, puis ça incarne tellement, mais tellement, tellement, tellement la patience sera récompensée parce que, et je ne révélerai rien, le film se clôt, ou du moins la scène climax du film est une des meilleures scènes que j'ai vues au cinéma depuis belle lurette. On sait de quelle scène je parle, j'imagine.
Oh, oui.
Ouais, bon. Oh. Donc, je vous dirais... Ben, je sais pas, déjà, moi, il m'a juste confronté parce que je suis passé à mi-film, j'étais comme « fuck that shit ». Je sais pas c'est quoi ce film-là, puis genre, j'ai quasiment envie de l'arrêter.
Ben oui, c'est payant. C'est
quand
payant,
le film a fini, j'étais genre « my God, c'est le meilleur film que j'ai vu de la sélection à date ». Et c'est un film que j'ai vraiment envie de répandre cette nouvelle-là. Genre, allez le voir, ça va vous
puis soyez patient.
Soyez
patient. Ça me rappelle un peu le cinéma de Yorgos Lanthimos, mais
ouais,
peut-être un
ça.
Peu... Sans le côté esthétique, là, les longs, longs plans, là, on est plus dans... Je pense que c'est peut-être un petit peu plus bité, mais c'est le même genre de froideur que les personnages.
Oui, c'est ça, il y a une froideur, c'est ça.
Le côté aussi surréel, là, tout le monde accepte le côté surréel, mais
absolument.
Personne ne le souligne à gros traits dans le film. Fait que ça me rappelait ça un peu aussi.
Je sais pas, c'est ça, est-ce que je suis le seul à être enthousiaste par rapport
à
ce film-là?
Non, j'ai vraiment aimé ça, puis je suis vraiment d'accord avec toi. Il y a un moment où je pensais qu'elle allait me perdre, puis finalement, il y a un gros crescendo à la fin où... C'est ça.
On s'en va quelque part.
On s'en va quelque part.
Je l'ai pas vu.
Donc, Monument.
Juste voyez-le, puis c'est aussi... donc, j'ai trippé, puis on a trippé. Puis en plus, je pense qu'en salle, c'est un film sensoriel, c'est un film qui requiert comme la pleine attention, la patience, encore une fois, on le répète, mais la salle, c'est son habitat naturel, un film comme ça, plus que certains autres. Il y a des films peut-être plus low-fi, plus petits, tout ça dans la sélection. Celui-là requiert là, l'attention de la salle de cinéma, définitivement. Fait que Monument de Jagoda Selk.
Ben, écoutez, il est 8h30. David Cronenberg sera bientôt au cinéma du Parc pour avoir une discussion sur son chef-d'œuvre Crash. S'il y en a qui voulaient faire les deux, vous allez pouvoir avoir la chance de le rejoindre. Merci à tous d'avoir été là.
Merci beaucoup.
C'était
notre point de vue. Mon nom est Paul Andréau, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante. Merci.